désir inquiète, fascine. Depuis la fin des années 90, vous, l'historien, vous l'étudiez sans céder à la peur ou au folklore. Pour comprendre ce que nos sociétés cachent, c'est vous qu'il faut démasquer, vous, le profil idéal. Vous n'avez pas commencé dans les livres, mais en uniforme. Passé par la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr, vous prenez vite un autre chemin, celui des archives. Agrégé d'histoire, vous soutenez en 1997 une thèse sur l'étranger et la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, primée par Le Monde. Vous êtes ensuite habilité à diriger des recherches à la Sorbonne, mais vous enseignez aussi à Nice, San Francisco, Tokyo, Tunis, Bruxelles. Votre parcours de chercheur est salué par l'Institut universitaire de France et par une récompense académique au Japon. Votre spécialité, les sociétés secrètes. Parmi votre douzaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, les Illuminati interrogent déjà la bascule du réel vers le mythe.
Quand Rihanna fait un spectacle où elle porte un carnet où il est écrit « Princess of Illuminati », vous imaginez qu'instantanément elle devient leur chef de file. Donc ils ont une capacité à être, bien malgré eux, complètement revisités, relookés en permanence dans une perspective d'expliquer nos peurs.
Dans les sociétés secrètes, vous décryptez trois siècles de faits et de fantasmes, des Rose-Croix aux Anonymous, du Ku Klux Klan au Carbonari, codes, masques, titres ronflants, ces groupes créent une histoire parallèle, souvent plus séduisante que la réalité, parfois plus dangereuse aussi.
Il suffit d'y croire, de toute façon, de croire à l'existence pour entrer déjà dans cette logique-là. Et ça peut concerner le climat, la médecine, la science de manière générale, la conquête spatiale, tout peut en faire partie.
Votre méthode n'est pas spectaculaire, elle est rigoureuse, patiente, précise. À l'heure où la désinformation prospère, vous montrez comment l'imaginaire s'installe, s'incarne et parfois agit. Et vous le dites sans mystère, toute société secrète propose un modèle de compréhension du chaos du monde, un modèle qui nous rassure autant qu'il entretient nos peurs.
Voilà, Pierre-Yves Beaurepaire, donc les sociétés secrètes, votre nouveau livre. Aujourd'hui, alors, on en a parlé, là, Olivier, on a parlé des Illuminati également. Il y a bien sûr Rose-Croix, les Anonymous, les francs-maçons. Mais quand même, aujourd'hui, quelle est la société secrète qui alimente le plus de fantasmes?
Moi, je dirais tout ensemble, parce qu'en fait, c'est pas une réponse de Normand, mais elle tisse une sorte de trame où chacune reprend des éléments à l'autre. Ça permet une sorte de mise à jour en permanente. Donc moi, je dirais fondamentalement les Illuminati. Mais quand j'ai travaillé justement dans le précédent livre sur les Illuminati, je me suis rendu compte que ça ne faisait sens que si on voyait avant-après.
D'accord.
Donc c'est vraiment une sorte de continuum où chacune écrit un nouveau chapitre, dit... la société secrète précédente était intéressante pour tel ou tel point, mais là, finalement, elle répond pas tellement à nos attentes. Donc, nous, on va donner notre propre version et forcément, elle sera meilleure.
Et pour poursuivre, justement, sur les Illuminati, au départ, il y a une vraie société secrète créée en Allemagne, les Illuminaten, au XVIIIe siècle. Comment on passe d'un vrai fait réel à un délire complètement complotiste?
Tout à fait, ça c'est passionnant parce qu'en fait, dans le cas des Illuminati, il y a effectivement au départ, pendant moins de 10 ans, une société historique qui a existé, documentée, et puis ensuite le mythe a complètement fait disparaître cette société pour être alimentée jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le cas des Rose-Croix que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement le contraire. C'est une fiction littéraire proposée par des étudiants.
Ça part pas toujours d'un fait réel, ça.
Voilà, c'est ça, ça marche dans les deux sens.
Ah ouais.
Et là, ça a tellement plu, parce que c'était la confrérie des invisibles, parce que il disait avoir des pouvoirs de communication à distance. Il y a toujours aussi quelque chose de l'utopie technicienne. Exactement. Et finalement, là, les gens se sont dit, elle n'existe pas, on va la créer. Et aujourd'hui, il y a encore des ordres de néo-rosicruciens à travers le monde entier. Ça marche en deux sens.
Est-ce que les sociétés secrètes ont été prises au sérieux dès le départ, par exemple, ou est-ce qu'elles ont toujours été pourchassées même par les autorités?
Les deux. Elles ont été prises au sérieux parce que à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, le secret ne peut appartenir qu'à l'État, au prince.
D'accord.
Et l'idée que des particuliers puissent s'organiser de manière secrète ou proposer leur propre version du secret, c'est absolument impossible. Et dans le cas des Rose-Croix, c'est pour ça qu'un certain nombre de princes ont tout de suite dit lançons l'enquête, on veut savoir qui en est, et on veut surtout, il faisait une sorte il faisait des prophéties, on est au début d'un apocalypse qu'on appelle la guerre de 30 ans, quel prince sera celui qui sera le sauveur de l'Europe, et donc ils veulent savoir qui en est,
oui,
et si c'est eux qui seront les élus.
Alors, on va continuer à parler, bien sûr, des sociétés secrètes. Et avec vous, Julien, une société secrète qu'on connaît bien, hein, voilà aussi, puisque depuis Donald Trump, on assiste aux États-Unis au réveil du Ku Klux Klan, hein, l'une des sociétés secrètes, bien sûr, les plus anciennes des États-Unis.
Oui, 160 ans, c'est son âge au Ku Klux Klan. Il a été fondé en 1865 par les sudistes après la guerre de sécession. Alors, au XXe siècle, cette société secrète raciste comptait plusieurs millions d'adhérents et menait des actions ultra-violentes, hein, des lynchages notamment contre les Noirs et les Juifs. Aujourd'hui, le KKK ne compte plus que quelques milliers d'adhérents et désormais c'est une nébuleuse mêlée notamment à l'ultra-droite américaine. Ce qui explique que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les Klansmen, c'est comme ça qu'on les appelle, se sont portés par l'idéologie xénophobe du courant MAGA. Dans leur ligne de mire, il y a toujours les Noirs, les Juifs, les homosexuels, mais aussi surtout aujourd'hui les migrants. Lors de l'investiture de Donald Trump en janvier dernier, des membres du KKK ont par exemple distribué des tracts anti-migrants dans plusieurs états, par exemple le Kentucky et le Tennessee, et ils encourageaient alors la délation contre les clandestins. On va le voir, vous le voyez là justement, ce tract en question avec le logo du KKK. Alors on sait que le père de Donald Trump a été membre de ce mouvement à la fin des années 20. Donald Trump, lui, a toujours été un petit peu quand même embarrassé, hein, par le soutien du KKK à son égard. Est-ce que cette société qui se veut secrète a cherché ou cherche aujourd'hui, par exemple, à faire de l'entrisme dans la sphère politique?
Ah oui, tout à fait. Elle l'a d'ailleurs toujours fait. Hein. Elle a aussi pensé la société secrète, c'est l'inscrire sur le temps long. Dans les années 20-30, on dit qu'ils vont même initier un certain nombre de présidents, avant Roosevelt, à la Maison Blanche elle-même.
Donc, et oui, tout à fait. Et aujourd'hui,
oui, tout à fait, parce que bien évidemment, il fait comme pour QAnon. Hein. Il dit oui, ça m'intéresse, etc., parce qu'il sait que les MAGA sont très liés, mais il embrouille toujours les choses, hein, mais en réalité, bien sûr qu'ils essaient de faire de l'entrisme, parce que le Ku Klux Klan est certes un étiage, hein, il a beaucoup moins de membres que les millions que vous évoquiez à une époque, mais il a connu ça tout le long de son histoire. Donc ils se disent, comme toute société secrète, pour l'instant on est dans une phase basse, et à un moment donné, la résurgence se produira. Et on sera là.
Alors Trump, on le disait, un peu embarrassé, hein, par ses liens avec le KKK, un peu moins avec QAnon. Vous venez d'en parler. Quel lien vous faites entre QAnon et MAGA, la sphère MAGA aujourd'hui autour de Donald Trump?
La dénonciation de l'État profond. Et ça, déjà au 19e siècle, à l'époque justement de l'après-guerre de sécession que vous évoquez, c'est déjà exactement la même chose. Le Nord vient dicter au Sud la reconstruction, sur quelle base? Parce qu'il l'a vaincu. Aujourd'hui, c'est l'État profond, se moque des élections, hein, se moque du fait que nous avons gagné, et donc il faut se méfier de ces entreprises.
Pardon, on n'a peut-être pas bien précisé, vous pouvez nous donner la définition précise de QAnon?
Au départ, c'est un personnage mystère, Q, hein, qui est censé, sur le forum 4chan, envoyer un certain nombre de messages sibyllins. Dans la société secrète, il y a aussi toujours ça, forme d'oracle, de messages que chacun peut décrypter comme il veut. Ce qui fait que si on se plante, ça évite aussi d'être totalement démonétisé.
La seule différence, c'est que les QAnon, eux, ont pignon sur rue, contrairement par exemple aux francs-maçons ou aux Ku Klux Klan dont on parlait tout à l'heure, et on les voit, et eux, par contre, sont persuadés du complot, chassent justement ces sociétés secrètes. Et c'est là où on voit le rôle tout de même qui est assez intéressant d'Internet sur ces sociétés secrètes. Parce que là, on parle tout de même, et vous en parlez, vous, du 17e au 21e siècle. Donc elles sont très anciennes, ces sociétés secrètes. Et il y a eu une résurgence vraiment avec les réseaux sociaux. Une loupe.
Oui, totalement. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était l'imprimé, c'était le manifeste anonyme. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est décrypter une image. Vous avez derrière la pyramide, oui. La pyramide lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Et instantanément, ça devient quelque chose de révélateur. C'est-à-dire tous les signes que les sociétés secrètes sont censées, elles sont tellement sûres d'elles-mêmes qu'elles laissent comme ça des traces.
Alors, vous évoquiez justement les réseaux sociaux. Il y a aussi la question de la pop culture. Vous l'évoquez dans votre livre, les sociétés secrètes irriguent la pop culture. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner récents de livres ou d'œuvres qui ont été influencés par ça?
Dans tous les domaines, les jeux vidéo, Assassin's Creed, oui. Toute la série quand même qui a plus de 15 ans surf là-dessus. Vous l'avez aussi chez Marvel, hein, Doctor Strange versus l'Illuminati, où il est jugé dans l'espace, preuve aussi que finalement ça se détache complètement de tout ancrage spatio-temporel. Donc on peut les mobiliser à tout point de vue.
Il y a aussi Corto Maltese, par exemple.
Corto Maltese, etc. Oui, mais avec une forte dimension là, de création, alors que parfois on est vraiment du bas de gamme, mais ça fonctionne très bien. Donc.
Est-ce que vous avez vous-même été initié par une société secrète?
Ah.
Ah, vous pouvez pas nous le dire, peut-être? C'est ça?
J'ai terminé la conclusion en disant qu'on devient soi-même un peu, comment dire, en travaillant sur ces sujets-là, notre vision du monde, le risque d'être... Il y a une forme d'addiction quand même, hein, au secret, à la lecture secrète des choses.
Voilà. Donc. Et pour percer justement ce secret ou pas, alors en tout cas, il faut lire votre livre, Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle chez Talendier. Merci beaucoup, Pierre-Yves Beaurepaire, d'être passé ce soir.